Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur.
Bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver donc sur les ondes de Radio Galère en compagnie de Sidi, qui est toujours fidèle à nos soirées du mercredi. Bonsoir Sidi, pour une nouvelle édition des dossiers mensuels de Comaguerre, qui va être un peu particulière, en sens qu'elle a un caractère d'importance, en ce sens qu'il s'agit aujourd'hui de participer modestement à la façon de Comaguerre aux commémorations qui sont en cours. On est en juillet, donc on est aujourd'hui le 12 juillet, vous entendrez cette émission dans quelques jours. Commémorations qui sont en cours en Chine pour célébrer le 100e anniversaire de la création du Parti communiste chinois. C'était le 23 juillet 1921. Alors les commémorations, il y en a de toutes sortes. Il y en a qui sont là un peu par tradition, routine et tout. Et puis il y en a qui ont du sens. Et s'arrêter sur cette commémoration sur les 100 ans de création du Parti communiste chinois, c'est s'arrêter sur une commémoration qui a du sens. Elle a du sens non seulement pour la Chine, puisque ce siècle a consacré une transformation extraordinairement importante et sur tous les plans de la vie sociale collective de ce pays. Et puis, ce siècle a aussi assuré la présence de la Chine sur la scène mondiale à un niveau qu'elle n'avait évidemment pas, à un niveau d'importance et d'influence qu'elle n'avait évidemment pas le 23 juillet 1921. C'est ce qui mérite donc qu'on y accorde un certain temps, même si dans l'heure et demie qui m'est allouée, il n'est pas question de couvrir tous les aspects, mais au moins d'en donner les traits principaux et d'en marquer, comme je le dis, l'importance complète pour la population chinoise et aujourd'hui pour l'ensemble de la population chinoise de la transformation opérée par le Parti communiste chinois sur ce pays pendant un siècle. Mais évidemment, ce qui se passe le 23 juillet 1921... dans une petite maison de thé de Shanghai, très précisément, alors une maison de thé, c'est l'équivalent ici d'un bar, si vous voulez, dans la concession française, donc la partie de Shanghai qui est colonisée et sous administration française. J'y reviendrai en parlant des colonies étrangères installées sur le sol de l'Empire chinois. Et puis, la deuxième chose importante, c'est de savoir que la tenue de cette réunion constitutive du Parti communiste chinois se fait dans cette maison de thé, mais qu'elle est tout de suite détectée par la police de la concession française, qui ne voit pas ça d'un très bon œil, on l'imagine, et qui va pousser donc les congressistes à aller finir leur congrès sur un lac, quelque part à l'extérieur de Shanghai, où ils vont finir sur un bateau tranquillement, où on ne sera plus dérangé par la police. Cette réaction de la police française, donc la police coloniale française, s'explique par le fait qu'on est en 1921, dans une période particulière de l'histoire mondiale cette fois. C'est que c'est une période qui fait suite à la révolution soviétique de 1917, suivie, on le sait, vous le savez, par une guerre civile. Et puis 1920-1921, c'est l'année où la plupart des partis communistes encore aujourd'hui existants sont fondés. C'est dans l'élan de la révolution d'octobre que se fondent beaucoup de partis communistes. C'est le cas du Parti communiste chinois. Il a ceci de particulier, ce Parti communiste chinois, qu'il compte 50 membres, le jour du 23 juillet 1921, qui ont envoyé 12 délégués à Shanghai pour ce congrès constitutif. C'est tout petit, c'est un début, mais parmi ces 12 délégués, il y en a dont les noms sont maintenant moins connus, mais il y en a un dont le nom est resté dans l'histoire, il s'appelle Mao Tse-tung. Et il est responsable de la ville où il vient, des jeunesses communistes. Il est tout jeune à l'époque, il a pas 30 ans. Voilà comment démarre une vie exceptionnelle, qui sera la vie exceptionnelle de Mao Tse-tung, mais qui sera aussi une vie exceptionnelle de ce pays, la Chine. Qu'est-ce que c'est que la Chine en 1921 ? Alors, je vous ai parlé d'empire. En fait, ce n'est plus un empire depuis 1911, puisque en 1911, l'empire est renversé. L'empire donc de la dynastie Mandchou est renversé par un coup d'État qui est un coup d'État, disons, à la fois de chef de guerre, de bourgeois, de féodaux. Bref, il s'installe une république, donc la première république chinoise, qui est dirigée par un certain Sun Yat-sen, dont vous avez peut-être entendu le nom. Et Sun Yat-sen est un personnage intéressant en ce sens qu'il fait partie de ces Chinois qui sont allés un peu voir ce qui se passait en dehors de la Chine pour voir les transformations du monde en cours. On est en 21 et les transformations du monde sont en cours, elles sont observables. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans les années précédentes, dans le demi-siècle précédent en Chine ? C'est que les pays occidentaux sont venus coloniser. Donc ils ont installé, alors ils n'ont pas pu prendre la totalité du territoire de la Chine, c'est trop vaste, mais ils se sont installés sur les côtes, ils ont créé des mines, ils ont installé des manufactures, ils ont installé quelques lignes de chemin de fer pour pouvoir exporter les productions qu'ils font sur le sol de Chine. Ils ont créé des relations de travail ou d'affaires avec une petite bourgeoisie d'affaires chinoise. Et l'Empire, qui est là, donc on est en 1840 à peu près, l'Empire qui est là, les laisse faire. L'empire est faible, c'est l'empire qu'on appelle la dynastie Manchu, qui est la dernière dynastie impériale chinoise, et qui a cette particularité de s'être un peu repliée sur elle-même et de vivre un peu sur les lauriers de la Grande Chine. La dynastie précédente, celle des Ming, avait porté les capacités techniques, politiques de la Chine à un niveau très élevé. Et puis la dernière dynastie, la dynastie Manchu, qui est une dynastie en partie d'envahisseurs, puisque les Manchus sont des peuples qui vivent au nord de la Chine et qui ont pris le pouvoir, mais qui n'ont pas remplacé la Chine. Il y a très peu de Manchus, ils ont simplement pris la Chine par la tête. Et en fait, ils ont considéré qu'ils avaient un acquis, que la Chine était un grand pays, qui avait ses capacités agricoles, intellectuelles, etc. Et ils n'ont pas bougé. Et quand ils voient que l'Occident se met à être envahissant, ce qu'il est, on est au milieu du 19e siècle, c'est-à-dire l'Occident commence à coloniser. Après avoir colonisé l'Amérique, il se met à coloniser un peu partout. Et quand ils voient ça, la réaction de l'Empire Mandchou, c'est plutôt le mépris, en disant « Non, de toute façon, nous, on est suffisamment puissants, grands, etc. On ne va pas subir le sort de l'Algérie ou de tel petit pays d'Amérique latine. On ne s'occupe pas trop de l'envahisseur possible. » C'est notable parce que c'est exactement la réaction inverse de celle des Japonais. Qu'est-ce que fait la dynastie, donc l'empire japonais, la dynastie impériale ? La dynastie japonaise voit arriver ces blancs, appelons ça parce qu'à l'époque on distingue bien les blancs des jaunes, des noirs, etc. Elle voit arriver ces blancs très envahissants, dotés de techniques, en particulier de techniques militaires et d'appareils militaires très dangereux. Et l'Empire japonais va composer, c'est-à-dire que c'est l'Empire japonais, c'est connu dans les livres d'histoire, qui à partir de 1868 dit « si je ne veux pas être colonisé ni envahi, il faut que moi-même j'adapte les techniques industrielles, les progrès scientifiques qui ont permis à ces Blancs qui veulent nous envahir de progresser, d'être beaucoup mieux armés que nous et d'avoir des capacités industrielles exportatrices très fortes, il faut que je prenne la place, moi, en tant qu'Empire japonais ». Et c'est l'empereur lui-même qui va dire « il faut, on a décidé, on va moderniser le Japon ». Et le peuple japonais obéit à l'empereur. Ce qui ne se passe pas du tout en Chine. Ce qui ne se passe pas en Chine, ce qui fait qu'en 1840, la Grande-Bretagne arrive, elle vient des Indes, puisqu'elle a colonisé l'Inde, elle est tranquille, et elle s'installe par la force dans le sud de la Chine, dans la zone de Hong Kong. Elle arrive avec d'abord du matériel, elle va vendre tout ce qu'elle est capable de faire et qu'elle fabrique en particulier en Inde, et puis elle va en même temps entreprendre une corruption de la Chine, c'est-à-dire elle va se mettre à vendre de l'opium. Et elle va donc affaiblir la capacité intellectuelle et physique de la population chinoise en vendant de l'opium en grande quantité. Et ce sera donc la première guerre de l'opium, c'est en 1840, qui assure l'installation de la Grande-Bretagne à Hong Kong principalement, dans la région de Canton, et aussi à Shanghai. Une deuxième guerre de l'opium aura lieu 10 ans après à peu près pour, j'allais faire une deuxième attaque très forte. Et à partir de ce moment-là, les portes de la Chine impériale sont ouvertes aux colonisateurs européens. Parce que vous imaginez que les autres colonisateurs européens, toujours à l'affût des avancées de la Grande-Bretagne, qui est la première à coloniser, veulent leur part du gâteau. Et tout le monde va y arriver. La France, l'Allemagne, tout le monde va s'installer, et va s'installer d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire il n'est pas question, parce que c'est trop grand, l'Empire a encore d'assez beaux restes, et d'où il ne s'agit pas de coloniser la totalité de la Chine, il s'agit d'installer des bases, des ports, de créer des entreprises, d'exploiter la main-d'œuvre chinoise là où elle est, dans ses ports, dans ses zones côtières, de vendre de la marchandise, fabriqués donc dans d'autres colonies ou dans les métropoles coloniales, et donc de créer un État qui sera caractérisé par un certain Vladimir Lénine qui a travaillé sur la question en disant « La Chine est à cette époque-là un pays semi-féodal, ça c'est ses structures internes de commandement entre l'empereur, les mandarins, les grandes familles, les grands bourgeois, et semi-colonial, c'est-à-dire que la colonisation se fait, mais elle ne va pas très loin à l'intérieur des terres. C'est une colonisation du littoral et d'un certain nombre de cités ou de zones régionales très proches des ports. » Alors on est tout à fait dans une logique qui est connue, par exemple, des colonisés africains, c'est-à-dire que l'Européen arrive d'abord, fait un comptoir, ouvre une mine quelque part, met une petite voie de chemin de fer, et au fond, c'est ça pour lui, c'est ça la colonie. Alors si ça résiste, après il tire dans le tard, on connaît le système, mais la colonisation, c'est... Et donc les colonisateurs européens n'ont pas l'ambition et n'ont pas les moyens d'aller dans les profondeurs de la Chine, donc faire des milliers de kilomètres avec des troupes. L'Empire existe encore, il a une petite armée, même si elle est en retard dans son équipement militaire, il est là, la population ne... se laisserait peut-être pas faire. D'ailleurs, il y aura des réactions, puisque cette semi-colonisation de la Chine va susciter une première réaction dans les années 1850 qu'on appelle la révolte des Taiping. Et puis elle suscitera une autre au cours de l'année 1900. C'est la révolte des Boxers. Alors ce sont deux révoltes de type nationaliste, de refus de l'envahisseur et du colonisateur, mais qui sont sans programme politique. Ce sont des réactions de refus. On s'oppose, mais en fait, on n'a pas les moyens politiques et on n'a pas la réflexion politique pour dépasser cette situation. L'empereur elle-même, enfin, c'est une impératrice à l'époque, ne soutient pas ces mouvements. Et, par exemple, la révolte des Taiping sera brisée par des troupes européennes et américaines qui viendront aider l'Empire chinois à briser la révolte nationaliste. Donc on a bien une réaction d'une partie de la couche éduquée chinoise qui ne veut pas de cet envahissement et de cette colonisation, mais l'Empire et la cour tergiverse, laisse faire et finalement accepte que l'ordre soit rétabli par les troupes étrangères. Vous avez ça qui est dans un film qu'on appelle « Les 145 jours de Pékin » que vous connaissez peut-être. C'est effectivement des soldats européens et américains qui détruisent la révolte contre l'envahisseur colonial. On en est là donc au début de ce 19e siècle. Donc l'Empire est vacillant et c'est le fait de cette acceptation qu'il a fait de la semi-colonisation qui va permettre la réalisation du coup d'État qui, donc, en 1911, renverse l'Empire, renverse la monarchie impériale établie depuis deux milliers de siècles et établit la première république chinoise. Alors cette république chinoise, c'est une république, disons, une république démocratique bourgeoise pour prendre des caractéristiques qu'on connaît, qui est dirigé par un certain monsieur qui s'appelle Sun Yat-sen, sur lequel je m'arrête quelques instants. Alors Sun Yat-sen, il fait partie de ces bourgeois chinois qui, voyant bien que le pays était en retard, ils sont conscients, il est allé faire des études à Hawaï, il est allé faire des études au Japon, il s'est bien rendu compte que le train de la modernisation était en train de passer à côté de la Chine. Et donc il revient en Chine au moment où le coup d'État a lieu, c'est pas lui qui l'organise, et il arrive un peu comme le prophète, le sauveur qui dit ben, « je suis là, je suis prêt à prendre la tête de la première république chinoise ». Alors ça fait pas bouger les profondeurs du pays, mais disons il y a un refus de l'échec de l'Empire, il y a un refus de la colonisation qui vient quand même assez profond dans la population, et donc on l'accepte. Et le voilà donc à la tête, le premier président de la première république chinoise. C'est la fin de l'Empire qui ne reviendra plus jamais. On est donc en 1911. Mais effectivement, la Chine, c'est grand. Et en 1911, le pouvoir de la première république populaire, la première république, par exemple, démocratique chinoise, se résume en gros à la zone du sud-ouest du pays, donc la zone autour de Canton, Hong Kong, etc. Ça ne va pas beaucoup plus loin. Et ailleurs, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle les seigneurs de la guerre, en particulier à Pékin, qui disent qu'ils ont des armées, qui sont les armées héritées de l'Empire dont ils étaient les généraux, et qui veulent devenir les patrons. Il y en a même un, celui qui tient Pékin, qui tient la zone nord, qui a bien envie de redevenir empereur. Alors on lui passera un peu cette envie, mais on en est là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, au niveau de la Chine dans son ensemble, une demande de république. Il y a un début, une esquisse, un embryon de république chinoise qui s'est fait dans la zone de Canton, Hong Kong, et puis qui a des ambitions de faire plus, mais ces ambitions sont contrecarrées par d'autres puissances qui sont en partie, je veux dire, les généraux issus de l'Empire, les généraux qui étaient la veille les généraux de l'armée de l'impératrice. Et nous voilà donc rendus, donc on est dans ces années 1911 jusqu'à 1921, à un moment effectivement où le but de cette nouvelle république, c'est effectivement de s'assurer la maîtrise de la totalité du parti, mais pour ça, il va falloir le faire concrètement. Le faire concrètement, ça va donner lieu à une première lutte armée, qui est une lutte armée donc menée par la Première République, par Sun Yat-sen, qui va être relayée en 1925, au moment de sa mort, par un nom connu, ça s'appelle Chiang Kai-shek. Il s'agit d'assurer le contrôle de la totalité de la République chinoise par le nouveau régime, la Nouvelle République. Et donc... Là, ça arrivait, et c'est là que c'est intéressant, mais ça arrive au moment où le Parti communiste chinois, tout petit, je vous le rappelle, ses 50 adhérents de 1921, décide de participer à cette lutte pour l'extension de la République. Il est d'accord dans son programme, qui est encore sommaire à l'époque, il s'agit bien de créer une République bourgeoise pour remplacer l'Empire, faute de mieux. Il n'y a pas du tout de programme socialiste ni quoi que ce soit là-dedans, mais il y a une volonté donc d'aider le Kuomintang, donc le parti de Sun Yat-sen et de Chiang Kai-shek, à assurer le pouvoir de la République sur la totalité du territoire chinois. Alors ça se fait dans des conditions qui font débat au sein du tout petit Parti communiste chinois. Alors il gagne un petit peu des adhérents parce que ce qui se passe, c'est que au moment donc où le Parti communiste chinois est créé, il y a en même temps un développement, et ça c'est les suites mondiales, d'ailleurs ça se passe pas en Chine, mais c'est la même chose en France, dans beaucoup d'autres pays, les luttes ouvrières deviennent importantes, les luttes syndicales deviennent importantes, et ça c'est le contre-coup dans les masses populaires et dans les masses ouvrières de la révolution d'octobre en URSS. Et il y a partout, à cette époque-là, je ne vais pas rentrer dans le détail mondial, mais il y a partout donc des luttes ouvrières, des luttes syndicales importantes, et une volonté qu'on pourrait appeler, c'est même si ça ne se fait pas sous cette appellation, une volonté d'émancipation d'un prolétariat qui est encore petit numériquement, mais qui a bien senti qu'il avait une place à prendre sur la scène de l'histoire. Alors en Chine, ça se présente dans des conditions un peu particulières, puisque en fait, la modernisation qui a commencé avec l'arrivée des colons, et ça, personne ne le conteste, c'est-à-dire que là, comme dans d'autres pays semi-coloniaux et semi-féodaux, c'est l'arrivée des colonisateurs ou des semi-colonisateurs qui va créer le début de la modernisation du pays, c'est-à-dire qu'avant 1840 et la première guerre de l'opium, il n'y a pas d'usine avec des ouvriers chinois qui travaillent. C'est après que les firmes étrangères vont créer des usines et puis que certaines seront reproduites où il y aura des sous-traitants qui seront des bourgeois d'affaires chinois qui feront partie d'un début de bourgeoisie industrielle. Mais la bourgeoisie industrielle, principalement, elle est un produit d'importation. C'est le résultat de la colonisation. Là-dessus, pas de surprise du tout en termes théoriques. C'est-à-dire que c'est dans Marx très très clairement à plusieurs reprises. C'est-à-dire que l'arrivée du progrès technologique, scientifique lié à la révolution industrielle se fait par le biais des capitalistes. C'est eux qui sont porteurs, en exploitant ensuite le prolétariat, mais c'est eux qui sont porteurs de cette progression scientifique, technique et technologique. C'est exactement ce qui se passe en Chine, mais sur une échelle assez petite, puisque je vous le rappelle, donc les concessions, les colonies européennes touchent principalement la zone côtière. Ça va un petit peu à l'intérieur, vers la zone le long de la vallée du Yangtze-Kiang, en particulier dans une ville dont le nom est aujourd'hui très connu et mondialement connu à cause de la Covid-19 qui s'appelle Wuhan. Mais en gros, c'est la région côtière et quelques centaines de kilomètres à l'intérieur des terres. On ne va pas plus loin dans l'industrialisation du pays. Et donc ce qui se passe, ce mouvement ouvrier, qui est vrai dans la totalité des pays du monde à la suite de la révolution bolchevique et qui marque le début des années 20 un peu sur tous les continents, va déboucher sur la constitution de syndicats, sur l'organisation de toute une série de grèves. Alors les grèves vont toucher les chemins de fer, les nouveaux chemins de fer, qui sont là aussi uniquement dans la bande côtière ouest, celle qui a été colonisée, les services des postes, un certain nombre d'activités industrielles dans les transports, etc. Voilà. Et donc il y a des années 1921 à 1927, une activité ouvrière revendicative extrêmement forte dans laquelle le Parti communiste essaye de trouver sa place. La difficulté, c'est qu'il est faible numériquement, il est faible dans sa capacité d'analyse, il vient d'être créé. Alors, il y a dans le Parti communiste chinois, comme à l'époque, des intellectuels qui réfléchissent, qui lisent, qui se tiennent en relation avec le Parti communiste soviétique, dont les représentants sont membres de l'Internationale communiste qui a été créée dans les années 20 par Lénine pour justement lancer le mouvement socialiste sur la totalité du monde. Mais ils ne se sentent pas assez costauds. Alors il y a un débat sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais qui a lieu au sein de ce petit parti communiste chinois, pour savoir si on a une ligne indépendante, c'est-à-dire si le Parti communiste chinois agit seul dans cette période de grève et d'agitation ouvrière, ou s'il s'allie avec les partis de la République chinoise bourgeoise, donc avec le Kuomintang, pour faire avancer les affaires, et surtout pour essayer, en aidant et en travaillant avec ce Kuomintang, donc le parti républicain bourgeois chinois, à assurer le contrôle de la République sur la totalité du territoire. Le choix qui est fait, et c'est un choix compliqué, mais qui tient compte des opinions des uns des autres, des rapports de force, de la capacité d'analyse des militants, consiste à dire, eh bien, en fait, le Parti communiste chinois s'intègre dans les troupes du Kuomintang, même ses soldats vont rentrer dans les troupes du Kuomintang. On ne dit plus qu'on est communiste, même si on se connaît, on a un travail commun dans des cellules, dans des organisations et dans des réunions. Et donc, on fait partie du mouvement républicain pour la démocratie bourgeoise étendue sur la totalité du territoire chinois. Et ça s'inscrit dans le cadre d'une lutte armée qui consiste, pour le Kuomintang, à aller s'emparer des zones du pays qu'il ne contrôle pas, et en particulier toute la partie nord, et en particulier la capitale Pékin. C'est ce qui se passe dans les années de 21 à 25. Et puis, je vous l'ai dit, en 1925, Sun Yat-sen meurt, il est remplacé par Chiang Kai-shek, qui, lui, vivra beaucoup plus longtemps et dont on reparlera. Chiang Kai-shek, c'est un bourgeois républicain, mais c'est surtout un affairiste corrompu qui pense surtout à s'enrichir lui, sa femme, sa famille, qui cherche des compromis avec les uns et les autres. Enfin, ce n'est pas du tout un leader révolutionnaire, c'est un nationaliste bourgeois qui essaye de s'installer à la tête quand même d'un grand pays, ça vaut la peine, mais qui est très très conscient de ses intérêts et qui le sera tout au long de son existence et qui sera souvent le jeu de manipulation extérieure puisqu'il est très corruptible et influençable. Et donc quand Chiang Kai-shek se retrouve seul à la tête du Kuomintang, on est en 1925, lui sait qu'il a un adversaire politique, même s'il est petit, qui est le Parti communiste chinois. Parti communiste chinois qui n'admettra pas que la direction des affaires de la nouvelle République bourgeoise soit entre les mains de ce type de personnage, qui déteste les communistes, qui est corrompu, qui pense surtout à s'enrichir lui et sa famille. Et donc il y a une rupture qui a lieu entre le Parti communiste chinois et le Kuomintang de Chiang Kai-shek, mais qui tourne au désavantage du Parti communiste chinois, parce que le Parti communiste chinois s'appuie donc sur un certain nombre de syndicats ouvriers qui se sont créés dans les zones d'activité colonisées, dans les chemins de fer, dans la poste, dans des secteurs d'activité comme ça, mais il n'est pas en capacité, et comme l'autre est féroce, de toute façon, tout ça va très très mal se terminer. Et en 27, il y a un acte qui clôt un peu cette période de collaboration entre le Parti communiste chinois et le Kuomintang, qui est le massacre de Shanghai, c'est-à-dire que les ouvriers de Shanghai, soutenus par le Parti communiste, se révoltent contre le Kuomintang et ils sont passés à la mitrailleuse. Et donc on a la fin d'un épisode très cruel, donc la première lutte armée à laquelle a participé le Parti communiste chinois nouvellement créé se termine très très mal, puisque une grosse partie de ses militants est passée par les armes, un certain nombre réussissent à s'enfuir, d'autres qui travaillaient, qui militaient dans d'autres villes vont survivre, mais le Parti communiste chinois est très très affaibli. Et il se pose bien entendu, à partir de ce moment-là, des questions sur son avenir. des questions auxquelles donc, ce qui reste du parti, qui n'a pas été décimé à Shanghai et puis dans d'autres villes où il y a eu aussi une répression très très brutale des mouvements ouvriers et des grèves, à Canton en particulier et à Hong Kong, le Parti communiste chinois va réfléchir à la suite des opérations. Mais retenons déjà que la première période d'existence du Parti communiste chinois, c'est une période de participation à une lutte armée, sans illusion sur sa capacité à la diriger, mais en prenant part à l'extension du système républicain bourgeois sur la totalité du territoire. On en est là. On en est là, et donc de ce point de vue-là, c'est un peu un échec, parce qu'il faut savoir que pendant toute cette période des luttes ouvrières, des premiers mouvements et des grèves qui ont lieu dans ces années 21, 25, 27, les représentants de l'internationale communiste, qu'on appelle le Comintern, vous le savez, sont sur place et essayent de donner des conseils, comment il faut faire. Et là, il y a un débat qui s'instaure entre un certain nombre de représentants du Parti communiste chinois qui disent la période, effectivement, nous sommes trop faibles pour prendre le pouvoir, donc participons à une coalition avec les nationalistes bourgeois. Et puis d'autres qui disent non, non, il faut qu'on reprenne notre indépendance, nous sommes différents des autres, et de toute façon, ces républicains bourgeois nous détestent, et à chaque occasion, ils feront comme ce qu'ils viennent de faire à Shanghai ou à Canton, ils nous passeront par les armes. On en est là de cette période. Et donc, on voit que déjà, l'affaire est très internationale, puisqu'il y a effectivement cette lutte chinoise qui se passe sur le territoire de la Chine entre un parti communiste et donc le parti nationaliste bourgeois qui est sous influence. Et puis, cette intervention du Comintern, donc de l'international communiste, qui essaye de favoriser l'activité du parti communiste chinois, même si c'est dans un sens qui, dans un premier temps, massacre de Shanghai et de Canton, ne lui a pas profité, c'est le moins qu'on puisse dire. On a là, et je m'arrête là-dessus, parce que ce rapport particulier entre la Chine, son parti communiste, et l'international communiste est un rapport qu'on va retrouver tout le long des 100 ans qui se déroulent entre 1921 et 2021, dans des conditions qui vont évidemment beaucoup évoluer. Pour m'entrer, alors, je vais faire une première pause musicale. Je vais faire une série de pauses musicales qui sont des pauses musicales très brèves, mais qui vont montrer que l'international et le chant, qui est bien connu en Chine, et qu'il donne lieu à des illustrations musicales, en particulier dans les cérémonies qui ont lieu. Alors, il faut savoir que les cérémonies pour marquer le 100e anniversaire de la création du Parti communiste chinois, qui ont commencé au milieu du mois de juin et qui vont connaître, enfin, qui ont déjà pris plusieurs aspects importants, mais qui vont connaître encore des développements pendant tout le mois de juillet jusqu'à la date cruciale de la fondation officielle du 23 juillet, ça a donné lieu à toute une série de manifestations publiques. Et le petit morceau qu'on va entendre, c'est une illustration musicale d'une cérémonie qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours à Shanghai. Alors je situe les lieux. Shanghai est une ville construite sur l'estuaire d'un fleuve qu'on appelle le Huangpu, avec deux rives, une rive qui, à l'époque de la colonisation britannique, est occupée par les Britanniques, où il y a les banques britanniques, le chef de l'armée britannique d'occupation, etc. Et puis de l'autre côté, qui à l'époque est vierge, qui s'appelle Pudong, de l'autre quartier, aujourd'hui, c'est le quartier des gratte-ciels de Shanghai, c'est un des plus gros quartiers de gratte-ciels du monde. Et donc, il y a eu une cérémonie pour marquer le 100e anniversaire de la création du PCC, où la ville a été mise en musique, le soir en musique, avec des flots lumineux coulant dans le Huangpu, des faisceaux de lasers dans le ciel de toutes les couleurs, et puis un énorme sang qui était sur les façades des gratte-ciels et qui circulait, une énorme mise en scène, comme on sait les faire aujourd'hui et comme les Chinois savent le faire. Et donc il y avait, pour illustrer ce démarrage des célébrations, un petit écho de l'international, puis c'est important. Et ce petit écho de l'international, je vous le fais entendre parce qu'il n'est pas du tout de la tonalité qu'on a l'habitude d'entendre pour chanter ou pour mettre en musique ce petit morceau de cette chanson. On l'écoute. Voilà, vous voyez, donc on est dans les chœurs, c'est pas du tout un hymne guerrier, on est en 2021, la Chine sait ce que c'est que l'international, elle pratique l'internationalisme à sa façon, j'y reviendrai, mais on est dans la célébration, c'est-à-dire que en 100 ans, un tel chemin a été parcouru qu'il n'y a pas besoin d'avoir des accents guerriers. On a cette musique qui fait partie du patrimoine de la Chine populaire, mais qu'on chante comme ça, avec des voix éthérées. On va entendre une autre version instrumentale tout de suite après, dans la prochaine pause musicale. C'est un rapport déjà un peu distancié par rapport à l'international. Ce n'est plus un parti combattant, c'est un parti qui est au pouvoir, qui a un projet de société nouvelle, qui avance beaucoup dans ce projet et qui a une influence sur le monde entier. Donc le ton de la musique, le rythme de la musique change, on l'a entendu dans ce petit morceau d'International. Nous voilà donc à cette fin de la première lutte armée menée par le Parti communiste chinois. Et donc au sein du Parti communiste chinois, donc, il y a ce débat, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là que le débat a lieu entre différents courants. Alors on peut l'illustrer, c'est Mao qui s'impose par rapport aux autres, c'est un peu facile parce qu'il y a quand même un débat, il y a quand même quelques milliers de militants à l'époque. Et donc le constat qui est fait, quoi qu'en pense l'international communiste, c'est de dire ben, les militants ouvriers, nos militants ouvriers, nos militants syndicaux, ils sont pratiquement tous morts, ils ont été fusillés par les nationalistes. Il faut qu'on s'appuie sur les endroits où on peut avoir du soutien. Et les endroits où on peut avoir du soutien, concernant, enfin, vu ce qu'est la population chinoise à l'époque, c'est-à-dire un tout petit prolétariat ouvrier, des tout petits syndicats dans quelques villes, la grosse masse de la population chinoise, c'est la paysannerie, et une paysannerie pauvre. Et donc ce que le Parti communiste va faire, c'est lancer une première république populaire sur une zone libérée, selon le concept des maoïstes chinois, donc dans une zone qui est au sud-est, pas sur la côte, à l'intérieur dans les montagnes. Et il va se créer là, à partir de 1930, la première république populaire chinoise qui va s'installer par les armes, et elle va s'installer avec le soutien de la population paysanne, tout simplement parce que le Parti communiste chinois va distribuer la terre aux paysans. Et donc c'est là qu'il s'appuie, un soutien de masse, et il va faire que les paysans puissent avoir leur surface cultivée, avoir leur récolte, ne pas être volés par des exploiteurs ou par des négociants véreux, etc. Bon, donc il a sa base de masse et il a son armée. C'est-à-dire que c'est ça qu'il faut comprendre, le Parti communiste chinois est arrivé au pouvoir en 1949 après une première lutte armée des années 21 aux années 25, une deuxième lutte armée qui va aller donc de 1930 en gros jusqu'à 1937. Donc il est toujours les armes à la main, mais il a les armes à la main dans des zones qu'il a conquis, dans les zones où il a un appui de masse, dans les zones où la population lui obéit, il y a des morceaux du territoire qu'il gère. C'est un début de république populaire sur une petite fraction du territoire. Évidemment, vous imaginez bien que ça déplaît furieusement au Kuomintang et aux nationalistes bourgeois. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont commencer la guerre contre la république, la première république populaire chinoise, donc dans cette région-là. Et ils vont commencer la guerre avec des moyens. Ils vont, avec des moyens qu'ils vont trouver à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur, il y a beaucoup de pays, on est dans le milieu, on est dans les années 30, c'est-à-dire que le climat international a changé. Les fascistes sont au pouvoir en Italie, Hitler va arriver au pouvoir en Allemagne bientôt. Donc le climat est au durcissement vis-à-vis des communistes. Et donc Chiang Kai-shek et le Kuomintang vont trouver des soutiens militaires, financiers, pour améliorer leur matériel militaire et pour aller détruire l'armée populaire chinoise et pour aller envahir la zone libérée. Bon, ça va rater, puisque chacun sait qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où le Kuomintang lance ses armées bien équipées contre l'armée populaire chinoise, qui est surtout une armée de guérilla, une armée de défense de la zone que les communistes ont conquis, à ce moment-là va commencer ce qu'on appelle la longue marche, donc qui dure un an, en gros, de octobre 34 à octobre 35, et qui va permettre aux communistes chinois de sauver une partie de leur état-major et une partie de leurs militants en prenant de vitesse les troupes nationalistes qui leur courent derrière. Alors il faut voir l'opération. C'est un an de marche à pied ou avec des mules. Il n'y a évidemment pas de camions militaires ni quoi que ce soit. Marche à pied. Il part 100 000 personnes de la zone république, de la zone populaire. Il arrive au bout 8 000 personnes. C'est-à-dire il y a 90 000 morts en route. Parce qu'on est dans les montagnes, on est dans un endroit pas possible, l'adversaire nationaliste a des avions, il a des complices, il a de l'argent, il peut corrompre, etc. Donc c'est le sauvetage du Parti communiste chinois se fait à travers la longue marche, mais c'est un sauvetage extrêmement... C'est limite, hein, je dis, il arrive 8 000 marcheurs sur les 100 000 qui partent de la zone libérée. dans un état de fatigue que vous imaginez. On a perdu beaucoup de monde en route, il y a mort de faim, mort de fatigue, enfin, tout a été possible. Plus, pas tellement dans les combats, mais beaucoup dans cette longue course, 12 000 km dans l'année. C'est énorme. À ce moment-là, un événement nouveau s'est produit, qui va rentrer en jeu dans la situation générale de la Chine. C'est que en 1931, le Japon qui, je vous l'ai dit, lui a plusieurs années d'avance en matière de progrès technique, technologique et en particulier militaire, s'est dit, cette Chine-là qui commence à bouger, les communistes, j'aime pas ça, l'empereur japonais n'aime pas ça, je vais en prendre un morceau, et en particulier un morceau qui est très intéressant parce qu'il y a dans ce morceau-là, qu'on appelle la Mandchourie, donc qui est face au Japon, des mines de charbon et des mines de fer, et un début d'industrie sidérurgique. Et donc, en 1931, le Japon a envahi la Mandchourie et il s'est assuré donc une partie du contrôle du territoire de l'Empire chinois, de la Nouvelle République chinoise, avec des industries lourdes. Et il a pris pied sur le continent, donc il s'est étonné. Et à partir de ce moment-là, du côté des nationalistes, on se pose des questions en disant « Mais ce Japon, qui est très ambitieux, qui est puissant industriellement, puissant militairement, il nous a déjà pris la Mandchourie sans difficulté, on n'était pas de taille à se battre. » Il va continuer, probablement il va continuer, c'est l'impression qu'on a, et elle était juste, cette impression-là. Et donc la réflexion a lieu au moment où la longue marche s'achève, où donc ce qui reste de l'armée du Parti communiste chinois, avec donc les 8000 survivants de la longue marche, est installé dans le nord du pays, dans une ville qu'on s'appelle Yan'an, a rassemblé autour d'elle les militants communistes qui n'étaient pas dans la longue marche, mais qui étaient militants dans d'autres villes de Chine. Il y a en gros 20 000 communistes installés à Yan'an, face donc au Japon qui a envahi une partie du pays et à l'armée nationaliste qui les déteste. Bon, l'affaire n'est pas gagnée. Et c'est à ce moment-là qu'a lieu un incident qui est très amusant à raconter, parce que il y a au sein donc du Kuomintang, donc de l'armée et de la bourgeoisie nationale, un débat. Ils se disent oui, bien sûr, le Japon est beaucoup mieux armé que nous. Il est très agressif. Hein. Je rappelle, le Japon est un empire très agressif. Il va se rallier au camp des fascistes avec les hitlériens et les mussoliniens dans un pacte anticommuniste. Et donc, il y a au sein du Kuomintang un débat pour savoir s'il ne faudrait mieux pas quand même retravailler avec les communistes pour éviter que le Japon ne vienne prendre la totalité du territoire chinois. Ce débat est tellement avancé qu'un beau jour, un certain nombre de généraux du Kuomintang, donc des bourgeois nationalistes, qui sont réunis à Xi'an. Xi'an, c'est la grande ville de l'ouest du pays. Invite Chiang Kai-shek, qui a sa capitale à Nankin. Là, il n'a toujours pas installé sa capitale à Pékin, parce que le territoire ne lui obéit pas complètement. Il l'invite à Nankin, et ses généraux, qui sont donc ses généraux à lui, le font prisonnier. Gentiment, hein, ils ne le mettent pas dans une cul-de-basse fosse en l'attachant avec des fers, mais ils le bouclent et puis ils disent il faut qu'on discute parce que là on va pas droit dans le mur, ça ne va pas du tout, les Japonais vont nous envahir, on ne va pas pouvoir résister. Et le fait de consacrer la plupart de nos efforts, ce qui a été le cas pendant la longue marche, à la destruction des communistes, c'est bien joli, on se tue entre Chinois et pendant ce temps-là, les Japonais vont prendre la place. Il y a une erreur de stratégie. Et à ce moment-là, il se passe, et j'insiste là-dessus parce que c'est très intéressant, même si ça paraît un détail de l'histoire, le Parti communiste chinois envoie à Xi'an, à cet endroit, un monsieur qui est un ministre important du gouvernement, du petit gouvernement de la République populaire de Yan'an, qui s'appelle Chou Enlai, dont on reparlera. Et Chou Enlai vient et il négocie avec Chiang Kai-shek et ses généraux en disant « Bon, désormais, c'est fini ». Vous arrêtez de nous tirer dessus, vous arrêtez de nous détruire. Les armées et les capacités militaires, qui sont en particulier les capacités de guérilla du Parti communiste chinois, sont à votre disposition. Nous travaillons ensemble parce qu'il faut que nous évitions l'invasion japonaise et que nous mettions les Japonais en dehors du pays. Et Chiang Kai-shek, qui n'est pas tranquille, puisqu'il est enfermé quand même dans une pièce pendant que les négociations ont lieu, il sait que ses généraux sont d'accord, les généraux qui l'ont accueilli là sont d'accord avec les communistes, et donc il va finir par céder. Il dit « Ok, ça va, j'ai compris, on travaille, désormais on travaille ensemble ». Ça va déboucher sur quelque chose de très concret, c'est-à-dire que quand au mois de juillet, on est là en décembre 1936, quand au mois de juillet 1937, le Japon lance son attaque sur Pékin et veut envahir la Chine, il y a une unité d'action entre les communistes chinois, avec leur base au nord et leur petite armée, et l'armée des nationalistes bourgeois du Kuomintang. Et donc ils vont décider de réagir ensemble contre l'invasion japonaise. Ce qu'ils vont faire. Ça fait partie, ça aussi, de l'histoire du Parti communiste chinois. Alors, je la résume depuis 1921, oui. Lutte d'abord syndicale et puis début de lutte armée avec le Kuomintang qui élimine les militants ouvriers et les militants syndicaux qui étaient soutenus ou qui étaient membres du Parti communiste chinois. Ça, c'est la période qui se finit en 1927. Deuxièmement, tentative d'éradication totale des communistes sauvés par la longue marche. Ça, c'est la période donc, de 30 à 37. Et puis finalement, les communistes et le Kuomintang travaillent ensemble face aux Japonais. Et donc, ils sont d'accord. Ça n'a rien changé sur les idées de Chiang Kai-shek par rapport au Parti communiste. Mais il sait que là, s'il veut garder le pays en être le patron, il est obligé de travailler avec eux. Il ne peut pas donc les tuer et en même temps, il ne peut pas mener deux combats à la fois. Et donc, il a été convaincu par sa petite captivité et par le discours diplomatique intelligent de Chiang Kai qui lui a dit « Bon, maintenant, c'est fini l'hostilité des Chinois. Vous nous détestez, on a compris. Vous avez tué le maximum de nos camarades. Mais désormais, l'objectif, c'est la lutte contre l'envahisseur japonais. » Et là, on est là et on fera tout ce qu'on peut faire dans ce sens. Ce qui va se faire, ce qui veut dire qu'il faut le voir comme ça, la Deuxième Guerre mondiale commence en 1937 en Chine et elle durera jusqu'en 1945. Alors nous, on a l'habitude de la faire commencer beaucoup plus tard, en 1939. Pour les Américains, elle commence à Pearl Harbor, elle commence en 1942. Mais pour les Chinois, elle a commencé en 1937. Et c'est une lutte menée conjointement par l'armée nationaliste bourgeoise du Kuomintang, de Chiang Kai-shek, et par les armées du Parti communiste, qui sont donc des armées moins équipées, puisque les nationalistes, en même temps, n'ont pas alimenté en armement le Parti communiste. Mais là, les communistes reçoivent par le Nord une aide de l'URSS en matériel léger, pour mener principalement des actions de guérilla. Nous voilà rendus, alors je passe toute cette période-là, donc de 37 à 45, la guerre a lieu. Les Chinois tiennent le coup, c'est-à-dire que le Japon n'arrive pas à envahir la totalité du pays. Il a la même difficulté, parce qu'il a une résistance militaire forte. Le gouvernement de Chiang Kai-shek s'est replié dans le Sichuan à Chongqing, donc très loin à l'intérieur des terres. Le gouvernement nationaliste reçoit, via la Birmanie, du matériel britannique qui arrive de l'Inde pour l'aider dans son activité militaire. Donc, en gros, le gouvernement chinois, donc qui est encore le gouvernement républicain, allié aux communistes, tient le choc et le Japon n'arrive pas à envahir la totalité du territoire. Ça tient jusqu'en 1945. Vous savez que la guerre, par ailleurs, puisqu'elle ne peut pas progresser en Chine, le Japon part en guerre du côté mer, donc Philippines, Malaisie, enfin, on connaît toute la bataille, les batailles, et part en guerre contre les États-Unis. Toujours est-il que cette guerre-là, cette partie de la Deuxième Guerre mondiale dont on ne parle pas beaucoup ici, donc qui dure de 1937 à 1945, a fait en gros 15 millions de morts en Chine. Alors qu'ils ne sont pas tous des communistes, qui sont des paysans, qui sont des ouvriers, qui sont à la fois des soldats de l'armée nationaliste et des militants et des guérilleros communistes, mais c'est ça l'échelle de grandeur, hein, une quinzaine de millions de morts. Alors c'est moins que l'URSS, mais c'est quand même beaucoup. Tout ça dans le cadre, je le rappelle, donc d'une alliance qui est une alliance qui s'appelle le pacte anti-Comintern entre les nazis, entre Hitler, Mussolini, les Allemands, et l'empereur japonais. Il y a trois puissances fascistes nazies qui ont décidé d'en finir avec le communisme, c'est certain, et avec même les gouvernements bourgeois qui sont soutenus. Ça nous amène en 1945. Pour autant, l'affaire n'est pas finie. L'affaire n'est pas finie parce qu'en 1945, bon, le Japon capitule et donc les troupes japonaises se retirent de Chine. Elles se retirent aussi de Mandchourie. Là, elles ont été en plus battues militairement très sévèrement par les troupes soviétiques qui sont arrivées au mois d'août, le surlendemain du bombardement d'Hiroshima, pour casser cette dernière armée japonaise sur le territoire chinois lui-même. Bon. La guerre est finie. Cette guerre-là est finie. Mais Chiang Kai-shek, on est en 1945, il reste ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire un anticommuniste féroce. Et il dit maintenant que j'ai plus l'envahisseur. L'envahisseur japonais, bon, il a été battu, il a pris deux bombes atomiques sur la tête, j'ai plus rien à craindre. En plus, j'ai été admis dans le camp des démocraties, puisqu'il faut savoir que à la conférence du Caire qui a lieu et à laquelle qui est organisée par Roosevelt et Churchill, Chiang Kai-shek est invité comme faisant partie du camp des démocraties, donc les républiques démocratiques, même si le personnage n'est pas très démocrate. Et donc Chiang Kai-shek dit maintenant je suis à l'aise, je suis le patron de la Chine, nous avons gagné. Alors ici. Tous les avantages de la victoire, nous avons gagné, et donc il ne me reste plus qu'à liquider les communistes. Alors il va essayer, ça ne va pas marcher, parce que les communistes se sont beaucoup aguerris pendant la guerre, ils se sont renforcés, ils ont reçu une aide matérielle des soviétiques, et donc quand Chiang Kai-shek veut liquider les communistes, là il n'y arrive pas, et c'est l'inverse qui se passe, il est battu. Il est battu. Alors, ça s'étale dans la période, je ne rentre pas dans les détails, mais ça s'étale dans la période de 45 à 48, en gros, fin 48. Et à ce moment-là, le Kuomintang est perdu. Et une partie, d'ailleurs, ce qui s'était passé à Xi'an dans l'incident que j'ai relaté, une partie donc des forces militaires, des forces politiques même qui soutenaient Chiang Kai-shek, se rallient aux communistes. Parce qu'ils ont vu leur capacité d'action dans la guerre, ils ont vu leur façon de travailler, donc ils sont relativement en confiance. C'est ce qui va amener la création de la République populaire de Chine. Vous savez tous, c'est proclamé à Pékin le 1er octobre 1949. Mais ce qu'il faut retenir donc, de cette période qui va donc de la création du parti, 12 délégués à Shanghai en juillet 1921 jusqu'au 1er octobre 1949, c'est que le Parti communiste a pratiquement tout le temps été en guerre, en lutte armée. Lutte armée contre les troupes nationalistes bourgeoises dans les conflits ouvriers et dans les conflits syndicaux dans les années 20 à 27. Lutte armée dans la période de la Longue Marche, puisque là, il s'agissait de sauver sa peau. Et lutte armée en commun contre l'envahisseur japonais, donc de 37 à 45. Ça fait partie de l'histoire longue du Parti communiste chinois qu'il ne faut jamais oublier. C'est-à-dire, à tout moment, l'existence du Parti communiste chinois a été menacée par des adversaires étrangers, mais chinois, intérieurs, et qu'il n'a dû sa survie qu'à sa capacité à se battre et à son organisation militaire. Même s'il n'a pas été, le Parti communiste chinois n'a pas été, dans cette période-là, à la tête d'armées massives avec des divisions blindées, etc., mais une capacité à se battre, une capacité de guérilla, une capacité à travailler sur les arrières des troupes adverses, de couper les approvisionnements, etc. Tout ça en s'appuyant, et ça c'est la deuxième leçon qu'il faut tirer de cette période, tout ça en s'appuyant sur la population locale. C'est-à-dire qu'un militaire, un guérillero communiste chinois, quand il arrive dans un village, il ne vient pas dans un village pour prendre la récolte et tout manger lui. Il vient pour partager, il vient pour aider, il vient pour défendre, il vient pour éviter que les Japonais arrivent et détruisent tout. Il est perçu comme ça, et c'est le travail politique qui est fait par les militants et les militaires communistes chinois pendant toute cette période. Donc vous voyez, cette double formation militaire concrète, principalement de guérilla, et puis formation dans le rapport entre le parti et la population. Il ne s'agit pas de se battre pour la grandeur du Parti communiste, il s'agit de se battre pour permettre aux Chinois de vivre leur vie, aux paysans chinois de pouvoir cultiver sa terre, de ne pas être pillés, violés, détruits par l'envahisseur étranger. C'est ça la leçon qui est donnée, et c'est ça qui va assurer donc l'arrivée facile au pouvoir du Parti communiste chinois en 1949. Je dis facile parce que à aucun moment dans les mois qui suivent 1949 ou dans les mois même qui précèdent, il y a eu de tentative de régler des comptes avec les nationalistes. Le Parti communiste chinois arrive à cette période-là, il est sûr de son fait, il a un appui massif dans la population. Et il y a un récit que je cite souvent qui mérite d'être lu, parce que c'est des souvenirs d'un monsieur qui s'appelle Lucien Baudard, qui a été donc le fils, il s'appelle le fils du consul, il était fils du consul français dans une ville de Chine. Et il raconte que dans les journées précédant la proclamation de la République, là où il habite, il est à Shanghai, eh ben les services publics se mettent en place. Eh ben il y a des communistes ici et là qui s'occupent, qui du ramassage des ordures, qui de la distribution d'eau, qui de l'ouverture du marché, etc. La transition entre le régime nationaliste et le régime communiste se fait en douceur, parce qu'au fond, le régime nationaliste, il est mort debout. à telle enseigne que, vous le savez, Chiang Kai-shek, lui, va fuir à Taïwan, à ce qui est appelé Formose à l'époque, avec une petite partie de son personnel, ses fidèles, mais le gros de ses forces et le gros des gens qui le suivaient va se rallier à un régime puisqu'il n'y aura pas de règlement de compte. Le Parti communiste chinois ne s'est pas installé au pouvoir en tuant ses adversaires politiques. Il les a dominés politiquement. Il a montré qu'il était en capacité de construire le pays et de le défendre. Et donc, la population s'est assez facilement ralliée à lui. C'est ça la première donnée sur cette première partie de l'histoire, donc sur ces 21-49, ces 27 premières années, 28 premières années du Parti communiste chinois. Donc, année de lutte armée, un adversaire nationaliste farouche, un envahisseur qu'il faut chasser et une arrivée au pouvoir relativement facile parce que dans toute cette période-là, le Parti communiste chinois s'est assuré le soutien des populations paysannes partout où il est allé et le soutien d'une grande part de la population chinoise, même de la petite bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie, parce qu'il a contribué à sauver les pays de l'envahisseur étranger japonais, qui a été, je le rappelle, particulièrement féroce. Il faut savoir que les médecins japonais ne le cédaient en rien aux médecins nazis, c'est-à-dire qu'ils se sont livrés sur des prisonniers japonais, chinois, pardon, à des opérations bricolage, j'allais dire, donc d'expérimentation biologique, scientifique, etc., épouvantable, que les nazis n'ont pas fait mieux, en gros. Il faut savoir ça. On ne le dit pas trop, parce qu'aujourd'hui, on présente le Japon comme un pays bien tranquille et tout. En fait, le fascisme japonais a été un fascisme redoutable, d'une violence égale à celle de la violence nazie, et qui n'a hésité sur aucun moyen pour terroriser la population. Je cite pour mémoire le fameux massacre de Nankin où dans les premiers jours de l'invasion donc de la Chine par le Japon, donc dans les premiers jours de 1937, l'armée japonaise envahit Nankin et la résistance est relativement faible et sans aucun objectif militaire, l'armée japonaise va liquider 300 000 civils en quelques jours. C'est-à-dire on va découper à la baïonnette, à la machette et tout, des populations civiles, hommes, femmes, enfants, 300 000 citoyens dans la ville de Nankin. Ça laisse une trace dans la mémoire collective chinoise qui est extrêmement forte, c'est-à-dire la violence japonaise a été épouvantable. Nous voilà rendus donc en 1949. Et donc on va écouter la deuxième petite musique qui est donc une internationale instrumentale qui a été aussi jouée à Shanghai ces derniers jours, qu'on va écouter. Clôturer cette première partie de mon intervention, je voudrais lire un texte d'un certain Karl Marx. Qu'est-ce qu'il vient faire là au milieu ? Eh bien, Karl Marx, il écrit, il est d'abord très curieux, c'est un boulimique de lecture, il essaye de tout comprendre, il comprendra énormément de choses dans son analyse du système capitaliste, et il se tient au courant de l'actualité, il dévore les journaux, etc. Et il écrit, alors tenez-vous bien, il écrit dans un numéro de la Nouvelle Gazette Rhénane, où il est publié, c'est dans le numéro de février 1850, il parle un peu de la situation ici et là, et il parle de la Chine. Parce que donc on est après la première guerre de l'opium, la deuxième va commencer, et il consacre un paragraphe comme ça à la Chine. Alors il le fait avec son intuition, avec des éléments d'information qui ne sont pas très nombreux. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de journaux qui circulent depuis la Chine, on n'en sait pas grand-chose, mais suffisamment. Et quand même, du côté des Britanniques, on peut lire, puisque le Britannique est colonisateur. Et donc voilà ce que dit Karl Marx sur la Chine en 1850. Et il fait état d'un rapport d'un missionnaire allemand qui est allé sur place et qui raconte, donc Marx lit ça. Alors il dit « Une surpopulation lente mais régulière de ce pays avait provoqué depuis longtemps déjà une violente tension des rapports sociaux pour la grande majorité de la nation. » Surpopulation, on va y revenir sur la question de la démographie. Il y eut ensuite l'arrivée des Anglais, donc je le rappelle, la première guerre de l'opium, qui ouvrirent de force 5 ports à la liberté du commerce, ça veut dire la liberté d'envahir, des milliers de navires anglais et américains cinglèrent vers la Chine, qui en peu de temps fut inondée de produits britanniques et américains bon marché. L'industrie chinoise, donc il y en a une à l'époque, mais petite, essentiellement manufacturière, succomba à la concurrence du machinisme. L'inébranlable empire du milieu subit une crise sociale, les impôts n'entrèrent plus, l'État se trouva au bord de la faillite, la grande masse de la population sombra dans le paupérisme et se révolta. Cessant de vénérer les mambarins de l'empereur et les bonzes, elle se mit à les malmener et à les tuer. Le pays se trouve maintenant au bord de l'abîme et même sous la menace d'une révolution violente. C'est ce qui va avoir lieu par la révolte des Taiping dont je vous ai parlé. Bien plus, et là Marx est prophétique, au sein de la plèbe insurgée, certains dénonçaient la misère des uns et la richesse des autres en exigeant une nouvelle répartition des biens, voire la suppression totale de la propriété privée. Ils continuent aujourd'hui encore de formuler ces revendications. Après 20 ans d'absence, lorsque ce missionnaire allemand là, revint parmi les civilisés, entre guillemets, les Européens, et qu'il entendit parler du socialisme, il s'écria horrifié. Je ne pourrais donc nulle part échapper à cette pernicieuse doctrine. Alors, vous voyez, c'est un missionnaire, hein, ce n'est pas un militant politique. C'est exactement là ce que prêchent depuis quelque temps beaucoup de gens de la populace en Chine. Et voilà ce que conclut Karl Marx en 1850. Il est bien possible que le socialisme chinois ressemble à l'européen comme la philosophie chinoise à l'hégélianisme. Quoi qu'il en soit, on peut se réjouir que l'empire le plus ancien et le plus solide du monde, 2500 ans, je le rappelle, ait été entraîné en 8 ans par les balles de coton des bourgeois anglais au seuil d'un bouleversement social qui doit avoir en tout cas les conséquences les plus importantes pour la civilisation. Lorsque nos réactionnaires européens, dans leur fuite prochaine, seront enfin parvenus à la muraille de Chine, aux portes qu'ils croient s'ouvrir sur la citadelle de la réaction et du conservatisme, qui sait s'ils n'y iront pas, République chinoise, liberté, égalité, fraternité. Vous voyez qu'en 1850, Marx a saisi qu'il se passait quelque chose en Chine et qu'il y avait un basculement qui risquait d'avoir lieu. Il a eu lieu 1949, 99 ans plus tard. Et il a eu lieu après donc un demi ou 40 ans de lutte armée à différents endroits, dans les zones ouvrières de la côte, dans les zones rurales, dans la longue marche et dans la guerre contre les Japonais. Et c'est intéressant à rappeler ce potentiel chinois de transformation. Parce que c'est ça que nous allons rencontrer maintenant dans la période qui suit. Nous voici donc arrivés en 1949. Le Parti communiste chinois est au pouvoir, avec à sa tête Mao Tse-tung, on le sait. Et il va donc s'occuper d'abord de remettre en marche un pays qui a souffert de la guerre, de donner un début de contenu socialiste, bien qu'il ne s'appelle pas encore socialiste à l'époque, ils disent « c'est une démocratie progressiste qu'on met en place », mais il le fait. Alors, il va prendre un certain nombre de décisions sur la propriété agraire, donc la distribution des sols, comme il l'a fait déjà dans les zones libérées et autour de Yan'an et pendant la période de la Première République populaire. Il va mettre en place un système d'éducation pour tous et un système de santé minimal, un système sanitaire pour tous, c'est-à-dire assurer l'accès de tous les Chinois à une médecine, certes rudimentaire, mais tous les Chinois sans distinction de classe et de niveau de richesse. Ça, c'est le démarrage. Ça, c'est le démarrage de 49. Ça se fait assez bien. Et il faut savoir que ça se fait tellement bien, ce démarrage, pour assurer l'éducation, pour assurer un minimum de système sanitaire, donc de santé pour tous, pour assurer donc la distribution de la terre et donc la fabrication en quantité suffisante de la nourriture pour tous. Ça se fait tellement bien que, grâce à cette politique qui va se poursuivre jusqu'à nos jours, la population de la République populaire chinoise va passer de 500 millions d'habitants en 1949 à 1,450 milliards à la date d'aujourd'hui. C'est le dernier chiffre. Donc, comptez, il y a presque 1 milliard de Chinois de plus qu'il y a qu'en 1949, qui sont éduqués, qui sont nourris, qui sont soignés. Là, on est déjà dans un début de bilan de la République populaire chinoise. Et puisque j'en suis aussi, je vais m'arrêter un petit moment sur cette question de la démographie. sur cette question de la démographie, puisqu'au fond, elle permet d'expliquer beaucoup de choses et elle permet surtout de répondre à des critiques un peu trop faciles, des critiques de du communisme chinois, en disant qu'ils n'ont pas fait grand-chose, que si, que ça, que... Enfin, je reviendrai sur ces choses-là. Mais pour donner quelques chiffres que je recherche, excusez-moi. Voilà. Alors, donc, je vous disais, aujourd'hui, il y a, statistique de 2020, 1,440 millions de Chinois. Bon. En 1990, il y en avait évidemment moins, mais ce qui s'est passé, c'est que la population s'est accrue parce que, d'une part, il y a eu à peu près de quoi manger pour tout le monde, de quoi soigner tout le monde, mais à un moment donné... ce progrès donc médical de base, ce progrès dans l'éducation a été tel que la population s'est mise à augmenter trop vite. Tellement vite que, tenez, voilà des chiffres, en 1990, l'augmentation annuelle de la population est de 20 millions. 20 millions de Chinois de plus tous les ans. Alors vous imaginez, en 5 ans, ça fait 100 millions de plus. Donc il faut toujours se poser la question de comment ils vont manger. C'est une question que s'est toujours posée Mao. Et une des politiques centrales de Mao dans la période où il est au pouvoir, ça a été d'assurer l'autosuffisance alimentaire de la République populaire. Ne pas dépendre du blé de l'extérieur, pas des plantes du blé américain, pas des plantes du blé des autres, des uns et des autres. Bon. Mais à un moment donné, c'est ce qui se passe donc dans ces années 90, l'augmentation est tellement importante que la Chine va prendre une décision qu'elle est aujourd'hui le seul pays du monde à avoir pris, c'est-à-dire de limiter les naissances au point d'interdire aux familles chinoises d'avoir plus d'un enfant, sous peine de pénalité. Alors on sait d'une part que cette mesure ne s'applique pas aux minorités ethniques, et d'autre part qu'il y a eu un peu de tricherie, mais en gros, ça va produire des résultats, puisqu'on va aller d'un taux de fertilité. Le taux de fertilité, c'est le nombre d'enfants moyens par femme en âge d'avoir. En 90, on est encore à 2,73, donc presque 3 enfants par femme, mais on vient de 6 enfants par femme en 1949. C'est-à-dire des taux qui, aujourd'hui, sont des taux qui effrayent quand on parle du Niger, de la République centrafricaine, etc. Après, donc, le passage, la politique de l'enfant unique, j'insiste, c'est le seul pays du monde qui ait osé prendre cette mesure, mais il l'a fait en disant, de toute façon, un rythme d'augmentation de 20 millions de personnes par an, il y a un moment donné où j'arriverai plus à nourrir tout le monde. Donc il faut que je limite. Il faut que je limite, je le fais de façon autoritaire, il y a des sanctions pour ceux qui trichent, mais je le fais et ça a marché. Puisqu'aujourd'hui, le taux de fertilité est descendu à 1,69, c'est-à-dire que les femmes en âge de procréer ont moins de 2 enfants. C'est-à-dire qu'on réduit les capacités d'augmentation de la population, qui reste quand même, je vous donne un chiffre, entre 2019 et 2020, il y a quand même eu 5 millions de Chinois de plus. Alors, ce n'est pas 20 de plus comme en 90, c'est 5 millions auxquels il faut penser. Il faut qu'il y ait des emplois, il faut qu'il y ait de quoi manger, il faut qu'il y ait des activités. Tout ça fait partie de la politique chinoise. Alors, vous savez aussi, vous avez peut-être entendu dire que depuis il y a 2-3 ans, je crois, ou 2015, il a été décidé que les familles chinoises qui voulaient avoir 3 enfants pouvaient. Il n'y aurait plus de sanctions, plus de pénalités. Donc il y a un certain nombre de familles qui vont le faire. Ça n'a pas beaucoup de succès, parce qu'en gros, ils se sont habitués à ce rythme de vie, ils se sont organisés. Et j'ai souvenir, parce que je l'ai vu de mes yeux, de ces familles, de ces visites où on voyait un landau, une poussette, avec un petit bébé, et 4 grands-parents qui, à tour de rôle, le poussaient sur le trottoir. C'était ça, une période, la période de l'enfant unique, ça a été ça. Cette période est passée, mais elle a permis à la Chine de réduire cette croissance démographique. Alors ça n'empêche pas d'être toujours le premier pays du monde en termes de population, mais faites l'écart entre, quand il arrivait en 90, 20 millions de bouches supplémentaires à nourrir tous les ans, c'était un choix impossible à tenir. Et donc on est descendu à des chiffres plus raisonnables, de l'ordre de 5 millions supplémentaires. C'est déjà beaucoup, et c'est pas prêt tout à fait de s'arrêter. Et puis cette population-là, elle a beaucoup, beaucoup changé. D'abord, elle a vieilli, puisqu'il y a moins d'enfants. La moyenne d'âge est toujours... L'âge médian, pas l'âge... Alors l'âge médian, c'est l'âge qui fait que la moitié de la population a moins de cet âge-là et l'autre moitié a plus. Est aujourd'hui à 39 ans. Donc il y a des gens qui disent la Chine est un pays de vieux. Non, elle n'est pas... Il y a la moitié de la population qui a moins de 40 ans, l'autre moitié qui a plus. Il y a des gens âgés en Chine aujourd'hui. Et surtout, énorme transformation, il y a aujourd'hui 61% de la population chinoise qui habite dans des villes, ce qui n'était pas du tout le cas en 1949, où le gros de la population chinoise était une population rurale. Voilà, ça, c'est des données démographiques qu'il faut avoir en tête pour se rendre compte, et pour, j'insiste là-dessus, aucun autre pays du monde, alors aucun autre pays du monde n'avait tant d'habitants. Il faut savoir aussi que la Chine nourrit en gros 20% de la population mondiale. Alors on passe de 22 à 18 selon les périodes, mais enfin, gardons un ordre de grandeur simple d'une façon générale. Hein, donc 20% de la population mondiale sur 6% des terres arables. Parce que la Chine, il y a beaucoup de montagnes, il y a des parties désertiques, donc il y a des rizières, il y a des champs de blé partout où c'est possible, mais il y a des endroits où on ne cultive pas. Donc avec 6% des terres arables, il faut nourrir 20% de la population. C'est un calcul que les Chinois, les dirigeants chinois, ont toujours en tête. Voilà, cet aspect démographique est important. Donc la Chine va rester le premier pays du monde en population, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais une population urbanisée, une population formée. Une population formée, je voulais juste vous indiquer, j'ai un chiffre quelque part sous les yeux, mais c'était un chiffre qui n'est pas tout à fait frais, c'est de 2016. Une population formée, je vais vous dire, j'ai quelque part un graphique, mais enfin, le nombre d'ingénieurs formés, donc ils sont diplômés tous les ans, ingénieurs, technologie, mathématiques, toutes les disciplines scientifiques, est de 4 millions par an en Chine. 4 millions par an. En Inde, qui est le deuxième pays dans ce classement, c'est 2 millions par an. Aux États-Unis, on est à 500 000, c'est beaucoup moins. En Iran, on est à 250 000, c'est inattendu, mais c'est la réalité. Après, les autres sont beaucoup plus loin. Donc, retenez qu'aujourd'hui, pour cette population donc, qui est plus âgée, qui a moins d'enfants, qui est urbaine, il y a du travail à condition de travailler dans des domaines technologiques nouveaux. C'est ça aussi la transformation de la Chine. Et ça va se faire dans toute une série d'étapes sur lesquelles je vais revenir. Parce que ce qui est cocasse, mais sur lequel je vais insister, c'est que dans l'histoire de la Chine communiste, pour faire simple, donc de 49 à aujourd'hui, ce que l'Occident voit, c'est les moments où il y a des difficultés. Alors que ce pays a eu des difficultés pour sortir donc ce 1,5 milliard d'habitants de la pauvreté, pour le former, pour le soigner, c'est évident qu'il en a eu. C'est évident aussi qu'il y a eu des débats et des désaccords à l'intérieur du Parti communiste, comme il y en avait eu dans les années 20 sur la question est-ce que c'est les paysans sur lesquels on s'appuie ou est-ce que c'est les ouvriers. Bon, même type de débat, il y en a toujours eu. Mais ça s'est toujours réglé dans le parti. Et s'il y a, vu d'Occident, des coups de barre à droite ou à gauche, c'est qu'en fait, il y a une élaboration de la réflexion qui fait qu'à un moment donné, le parti dit ben, « il faut que je rectifie le tir ». Là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Et ces moments de rectification de tir sont des moments difficiles sur lesquels l'Occident braque les phares et dit « ça y est, ça va craquer ». Parce qu'il faut bien être conscient du fait que pour les États-Unis, pour les puissances ex-coloniales qui colonisaient la Chine, le souhait, c'est la disparition de la Chine communiste. Ça, c'est tout à fait clair. Et donc, toute difficulté, car il y en a, et on ne peut pas le nier, et les communistes chinois, le parti le sait lui-même, toute difficulté est utilisée et magnifié, grandi, amplifié par les médias et par les gouvernements occidentaux en disant « si jamais ils pouvaient se casser la figure ». Et effectivement, quand vous savez qu'aujourd'hui, la Chine est classée comme l'ennemi principal des États-Unis, on sent bien que le souhait, c'est qu'ils se cassent la figure, mais qu'ils ne sont pas tout à fait prêts de le faire, parce que de toute façon, ils réfléchissent à la question. Alors, les moments difficiles. Alors, il y a un moment difficile sur lequel je m'arrête un petit peu, qui est la révolution culturelle. La révolution culturelle s'est lancée, effectivement c'est tout à fait clair et officiel, par Mao lui-même, qui sent qu'une partie de l'appareil communiste, donc un énorme parti avec des millions d'adhérents, est en train d'un peu de fatiguer, de s'installer dans ses aises et tout, et pense qu'il faut renouveler. C'est-à-dire qu'il y a des anciens alors, qui ont fait la longue marche, qui ont fait ci, qui ont fait ça, qui sont installés dans des postes de pouvoir et qui se sont installés dans un certain confort. Et Mao dit ça va pas, on est en train de mal tourner, là, ils s'installent dans leur poste et le parti se coupe du peuple. C'est-à-dire dès l'instant où vous êtes un responsable du parti local ou dans un secteur d'activité et que vous avez un certain confort et que vous vous habituez et que vous, peut-être vous cédez à peut-être des tentatives de corruption, le parti file un mauvais coton. Et donc Mao lance la révolution culturelle pour rectifier le tir, pour que les cadres du parti ne s'endorment pas sur leur laurier et dans un confort tout relatif qu'ils ont gagné dans des postes du parti. Il le lance et puis il s'aperçoit que très vite que ça, il a touché tellement juste en lançant ça que le phénomène lui échappe.
C'est-à-dire que beaucoup de jeunes gens en particulier disent ben « Oui, là, un tel, il est corrompu, là, un tel, il profite de son poste, un tel, il donne des postes à sa famille, etc. » Ça se voit, c'est visible, c'est connu. Hein. Bon. Et donc, ça prend une tournure un peu excessive, et il est obligé donc de dire à l'armée de calmer le jeu assez vite. Donc, ça sera un grand choc dans la société chinoise. Ça sera utilisé, il y aura beaucoup d'espoir du côté des gouvernements occidentaux en disant « là, ça va casser ». Et en fait, non, ça ne casse pas, parce que d'une part, l'armée cadre les débats, et d'autre part, il y a autour de Mao des personnages, en particulier le personnage de Chou Enlai, sur lequel je reviens, parce que je considère que c'est un des personnages centraux de toute cette révolution chinoise, bien qu'il n'ait jamais été le patron, il n'a jamais été que premier ministre de Mao Tse-tung. C'est lui qui va s'assurer que même dans les périodes les plus difficiles de la révolution culturelle a une période difficile en gros pendant un an et demi, pas plus. Après, il y a des séquelles, mais c'est déjà terminé, c'est-à-dire l'armée prend le contrôle, etc. Et Chou Enlai fait en sorte qu'il y ait toujours ce qu'il faut, qu'il y ait toujours de la nourriture, que les approvisionnements soient assurés, qu'il n'y ait pas de problème gravissime, que l'industrie continue à fonctionner, même s'il y a des troubles, il y a des grèves, etc. En fait, le pays tourne, le pays ne s'arrête pas, et ça, on le doit beaucoup à Chou Enlai et à ses équipes, c'est-à-dire toujours assurer que le pays continue à fonctionner. Même si il est conscient, et il est d'accord avec Mao, sur il faut un peu bouger l'appareil, il faut remuer, il faut nettoyer, il faut normaliser et moraliser les dirigeants communistes, puisque l'idée, c'est simple, un dirigeant communiste, ça doit dire la vérité, ça doit être propre, ça ne doit pas être corrompu, et donc ces gens-là qui sont installés dans le parti par opportunisme, pour faire des affaires, pour s'enrichir, ou pour être tranquille, eh bien, il faut s'en séparer, parce que ces gens-là deviennent des ennemis du peuple, soi-disant au service du peuple. C'est ça le fond de l'analyse communiste qui reste vrai, qui est tout à fait à l'ordre du jour du président actuel, qui parle toujours de morale politique, c'est-à-dire le parti est au service du peuple, il n'est pas là. Être au parti, ça ne veut pas dire avoir des privilèges, avoir des avantages, ça veut dire avoir plus de responsabilités et se préoccuper toujours de la vie des autres. Et d'ailleurs, se préoccuper toujours, puisque au fond, le parti est minoritaire. Il faut savoir que, tout en étant le plus grand parti du monde aujourd'hui, le Parti communiste chinois n'a que 95 millions d'adhérents qui travaillent, qui ont des responsabilités, mais pas plus. Donc c'est très peu par rapport à la population de 1,4 milliard. Je crois que c'est 6% de la population, c'est rien du tout. Donc il faut que les gens qui sont là, vous n'êtes pas obligé, quand vous êtes chinois, d'adhérer au Parti communiste. Si vous adhérez au Parti communiste, ce n'est pas pour vivre mieux, c'est pour avoir plus de soucis, il faut savoir, et pour savoir avoir la volonté et d'être porteur de la volonté collective d'améliorer le sort commun. C'est tout autre chose. Nous voilà donc dans un des moments difficiles, je situe cette révolution culturelle, qui va déboucher sur un épisode dont on parle peu, mais il faut le dire, c'est les moments où effectivement il y a débat au sein du parti, et au moment où ce qu'on a appelé, on est dans les années 74-75, arrive à la tête du parti une équipe qu'on a appelée la bande des quatre, alors ça a été très connu, qui est une équipe radicale qui veut aller plus loin dans la transformation du pays et dans la transformation des cadres politiques, qui va susciter une certaine agitation, et il y aura un secrétaire général du Parti communiste, un nommé Hua Kuofeng, dont on parle peu, qui va prendre le pouvoir pour les calmer, en même temps en étant un peu d'accord avec eux dans les années 75-76, jusqu'au moment où arrive une année qui est une année clé. Elle est une année clé parce que vont mourir l'année en 1976, Chou Enlai, dont j'ai parlé, Mao Tse-tung lui-même, et un autre personnage dont je n'ai pas parlé, mais dont le nom fait partie de l'histoire communiste chinoise, qui est le maréchal Zhu De. Le maréchal Zhu De est le principal héros militaire de l'armée populaire de libération, un des survivants donc, de la longue marche. Il a participé à toutes les actions militaires du Parti communiste chinois. Et donc on a une année clé, 76, c'est la disparition de trois des grands dirigeants de la Chine populaire première époque. Et c'est là que va émerger un nouveau personnage qui s'appelle, et dont vous avez tous entendu le nom, qui s'appelle Deng Xiaoping. Alors Deng Xiaoping, c'est un dirigeant communiste à l'évidence, qui a été dans le parti, qui a été mis sur la touche à certains moments pour être en désaccord avec Mao sur certaines questions, mais qui est un dirigeant communiste convaincu. Et qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là? Il se dit, ben voilà, on a depuis donc 49, on est presque 30 ans plus tard, on a beaucoup avancé, on a mis en place une économie qui est, on nourrit tout le monde est à peu près soigné, il y a encore de la pauvreté, mais surtout, on a accumulé du retard en matière technologique, c'est-à-dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait avec nos propres forces, ça c'est le slogan maoïste connu, compter sur ses propres forces, mais du point de vue de la technologie, on est en retard sur le monde extérieur. Et là, il faut qu'on ouvre. On est bien organisé, on a organisé notre pays, notre population nous fait confiance, mais maintenant il faut qu'on ouvre sur l'extérieur parce qu'on est en train de prendre du retard. Et donc nos adversaires, car il est clair que dans son esprit, comme dans l'esprit de tous les dirigeants du Parti communiste chinois, nos adversaires nous veulent du mal. Et donc si on est trop en retard technologiquement, un jour on aura des ennuis. On aura des ennuis militaires, on aura des ennuis technologiques, on revivra une période de néocolonisation comme dans les années 1840-1850. Et donc il va lancer un programme qu'on appelle de réforme, c'est-à-dire c'est le parti lui-même, dirigé par Deng Xiaoping, qui dit maintenant il faut qu'on rattrape ce retard technologique. Le pays est en ordre de marche, nous avons la confiance du pays, il est bien organisé, mais nous sommes en retard au niveau des disciplines scientifiques et techniques. Il faut rattraper ce retard. Comment faire ? Alors comment faire ? C'est très simple, il faut accepter les investissements étrangers. C'est-à-dire que dans la période maoïste, on compte sur ses propres forces, on travaille avec les minerais locaux, le pétrole local, etc. Mais on n'a pas accès, et d'ailleurs les Occidentaux ne nous les fournissent pas, on n'a pas accès aux technologies étrangères. Et là, il faut leur ouvrir la porte. Et donc le gouvernement chinois va ouvrir ce qu'on appelle les zones économiques spéciales, c'est-à-dire que dans toute une série de ports le long de la côte, depuis Canton au sud jusqu'à Dalian au nord en gros, il va ouvrir des zones économiques spéciales dans lesquelles les capitaux étrangers pourront être investis. Alors non pas à 100%, puisque chaque capitaliste étranger devra créer une société de droit chinois dans laquelle il n'aura que 49% des parts, mais le capital étranger le plus avancé arrive sur le sol chinois avec ses technologies pour fabriquer des produits avec le niveau de salaire des Chinois qui est évidemment plus faible que celui des Américains, des Anglais ou des Français. C'est ça la politique des zones économiques spéciales. Qu'est-ce que ça va faire ? Alors on va dire effectivement, les ouvriers chinois à l'époque sont moins bien payés que les ouvriers français ou américains. C'est tout à fait vrai. D'un autre côté, la nourriture est assurée à des prix qui ne sont pas non plus les prix français ni américains. Et donc la santé est assurée de façon minimale, mais générale, tout le monde y a droit. Et donc les ouvriers chinois vont accepter d'aller travailler dans les usines gérées par les Américains, les Japonais, etc. Et ils vont, en quelques années, y apprendre énormément. Y apprendre énormément, puisque vous avez accédé, alors vous êtes ouvrier au début, puis contremaître, puis chef d'équipe, etc. Et on va avoir, au bout d'une dizaine d'années de ces zones économiques spéciales, de ces industries donc étrangères installées sur le sol chinois, un prolétariat, une classe ouvrière chinoise qui va monter en niveau de formation à des niveaux les plus élevés qui soient au monde, parce qu'ils auront travaillé dans les usines où les technologies de pointe sont en vigueur. Et ils auront appris. Alors on a dit, ils ont espionné. Non, ils se sont formés. Quand vous avez passé 20 ans sur une machine-outil, vous savez comment elle fonctionne. Vous pouvez en faire marcher une autre. Vous avez appris. Dans le même temps où ils font ça, la Chine décide, ça c'est une autre idée de Deng Xiaoping, d'adhérer à l'Organisation mondiale du commerce. Là aussi, c'est un pari extraordinairement audacieux. Parce qu'adhérer à l'Organisation mondiale du commerce, ce qu'ils ont fait à partir de l'année 2000, ça veut dire accepter les règles de la concurrence libérale avec les grands capitalistes. Vous acceptez que nos produits arrivent chez vous, mais nous, on accepte que les vôtres viennent chez nous. Donc c'est ouvert. Donc on rentre dans un marché mondial où chacun doit tenter sa chance et tenir sa place. Ce qui est fait. Voilà la grande idée, alors je ne développe pas, mais cette grande idée de dire on accueille l'étranger, on apprend et on monte en niveau technologique pour être les meilleurs dans quelques temps, ce qui est en train d'arriver maintenant. Deuxième incident qu'on a beaucoup mis en valeur en Occident, c'est l'incident Tiananmen. Alors Tiananmen, c'est un peu après, donc Deng Xiaoping est encore proche du pouvoir, il vient de le quitter officiellement, mais il est encore là. Et c'est
un incident qui a été monté en épingle, parce qu'en fait, dans cette volonté de s'ouvrir à l'étranger, de faire venir des capitaux étrangers, de laisser un peu les Chinois sortir, enfin, il y a des contacts, il y a une partie des jeunes Chinois qui trouvent qu'il y a des tentations occidentales et qui aimeraient bien que le régime soit beaucoup plus libéral et peut-être un peu moins communiste. C'est ça qui va se jouer sur la place Tiananmen dans le printemps 1989. Et ce qui va se jouer aussi dans cette opération Tiananmen, c'est le rapport très particulier qu'entretient la Chine à l'époque avec l'URSS finissante. C'est-à-dire qu'au moment où ces étudiants disent qu'il faudrait libéraliser, il faudrait que ce soit un peu plus ouvert, etc., M. Gorbatchev vient à Pékin, on est en avril 1989, et vient dire « faites comme nous, ouvrez-vous à l'influence occidentale ». Et les Chinois, enfin, Deng Xiaoping et son équipe en partie, considèrent que ce discours est très dangereux. Et ils ont tellement raison de considérer que ce discours est très dangereux, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans que M. Gorbatchev aura tenu ce discours, le pays s'effondrera. C'est-à-dire que M. Gorbatchev a, je le dis, et je ne suis pas le seul à dire, a fait le lit des puissances occidentales en URSS. Et ça, les Chinois l'ont compris, et Deng Xiaoping le premier. Et c'est lui qui insiste pour qu'on arrête les opérations sur Tiananmen. Il est en désaccord avec le premier ministre de l'époque, qui s'appelle Zhao Ziyang, qui va essayer d'aller discuter avec les étudiants. Et donc, il en arrête, c'est pas possible, c'est une mauvaise route, il faut pas le faire. Et donc, il reprend les choses en main. Il y a une certaine répression, mais c'est pas des centaines de milliers de morts. Il y a un certain nombre de répressions, parce qu'il y avait des gens qui étaient organisés via Hong Kong et tout, pour mettre un peu de désordre sur le sol de la République populaire chinoise. Et Deng Xiaoping dit, après cet incident de Tiananmen, il ne faut pas qu'on arrête notre opération de modernisation, il faut qu'au contraire on accélère. Il faut qu'on accélère dans la connaissance de l'étranger, dans notre ouverture sur le marché mondial, dans notre connaissance des techniques et des sciences des pays les plus développés, parce que si on est en retard, un jour ou l'autre on le payera. Et je vais vous raconter une anecdote qui est un peu particulière. Ces années-là, je suis allé à Pékin une fois, et il y a à la place Tiananmen un musée d'histoire de la Chine qui a beaucoup changé, qui a été beaucoup modernisé et tout. Et donc ce musée, qui était un peu un musée histoire, qui faisait beaucoup état de la Longue Marche, le Parti communiste, Mao, etc., il y avait une salle où il y avait des personnages en cire, comme au musée Grévin à Paris. Et dans ces personnages en cire, à travers du maréchal Choudé dont j'ai parlé, donc le chef historique de l'armée populaire de libération, il y avait la cire de Bill Gates. Bon, alors je dis tiens, et je demande à l'interprète chinois qui était là, pourquoi il y a Bill Gates? Mais il dit, de toute façon, vous savez, si on n'utilise pas les techniques informatiques, un jour ils gagneront. Donc on est obligé, on le respecte, on le laisse venir, on apprend à s'en servir, parce qu'on aura besoin de ces techniques-là, et si l'on sont les seuls à les avoir, c'est nous qui allons perdre. Et donc c'était ça, c'était conçu, et donc il y avait hommage à Bill Gates, et pour montrer aussi que la Chine reste toujours la Chine, je ne sais pas si vous êtes jamais posé la question, mais je la pose devant vous, comment on fait quand on a 4000 caractères chinois à sa disposition pour travailler sur un clavier d'ordinateur? Alors, c'est une question qui s'est posée. C'était très difficile à résoudre. Alors, il y avait choix, la solution de dire, ben, on abandonne les caractères chinois, on passe à une écriture occidentale alphabétique, ou ça, on trouve une astuce. Et comme ils voulaient trouver, ils ont trouvé. Ils ont trouvé, alors vous savez qu'il y a une écriture phonétique du chinois qu'on appelle le pinyin, qui donne donc le son du mot. Et donc le pinyin, ça s'écrit avec des lettres de l'alphabet occidental. Et donc, quand vous avez besoin d'un mot, d'un caractère chinois, sur un ordinateur, vous proposez un son, le pinyin, et il va vous proposer une liste, parce qu'en fait, dans le même son, souvent en Chine, il y a plusieurs mots. Et vous allez proposer entre les 3-4 caractères, c'est celui-là que je veux dire, c'est celui-là que j'utilise. Et à ce moment-là, sur le document, il choisira le caractère. Donc ce type de mécanisme, alors je m'arrête là-dessus parce que c'est très intéressant, c'est-à-dire que la Chine n'a pas voulu abandonner ce qui fait son originalité. La langue chinoise est une des deux seules langues du monde, avec la grecque, qui n'a jamais disparu depuis 3000 ans. Et ils n'ont pas voulu dire, mais il y aura l'informatique, mais on va trouver une astuce. Et ils ont trouvé une astuce, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un caractère chinois à une langue alphabétique. Alors il y a des Chinois qui parlent anglais, mais beaucoup de choses fonctionnent avec les caractères chinois, avec ce mécanisme-là. Ce type de problème-là, il faut y penser, avoir la volonté d'y arriver, mais les Chinois ont souvent la volonté d'y arriver.
Sylvie, il faudrait que tu me dises combien de temps il me reste.
Je pense un quart d'heure.
Un quart d'heure, ça va. Non, non, c'est bon. Voilà. Et donc, c'était pour vous donner le climat. Alors, les moments où, effectivement, il y a des difficultés, où il y a des réorientations, il y a des conflits à l'intérieur du parti. On discute à l'intérieur du parti, mais on ne s'entretue pas. Le parti reste au pouvoir et il rectifie le tir en disant, là, on a une politique qui a été erronée ou qui ne correspond plus à la situation générale et on réoriente la politique. Mais c'est toujours à l'intérieur du parti que ça se passe avec tous les mécanismes. Alors, je ne sais pas, l'histoire à l'intérieur du parti, il y a des mécanismes profonds d'études, de débats, des congrès, etc. Et donc, on fixe des objectifs et on essaye de s'y tenir. Et puis, on fait attention au respect d'une certaine moralité politique, c'est-à-dire l'honnêteté, pas de corruption, être au service de la population, pas s'enrichir, etc. Tout ça, c'est important. Il faut savoir qu'il y a, à l'intérieur du Parti communiste, une commission d'épuration qui est chargée de virer tous les gens qui essayent de prendre un mauvais chemin, qui essayent de s'enrichir sur le dos du parti. Et il y a des exemples connus à des très très hauts niveaux. C'est pas, on ne va pas simplement s'en prendre aux lampistes. Alors nous voilà donc dans cette Chine moderne, avec donc ces difficultés, ces incidents qui sont beaucoup amplifiés en Occident, parce qu'il y a toujours cet espoir côté des États-Unis, côté de l'Union européenne, que la Chine populaire se casse la figure. Bon, elle ne se casse pas la figure. Elle ne se casse pas la figure. Et elle est d'autant plus renforcée qu'elle a compris. Elle a compris que les régimes socialistes, s'ils n'étaient pas rigoureux, s'ils ne faisaient pas attention à l'honnêteté, s'ils ne faisaient pas très attention à la corruption, et s'ils n'étaient pas sensibles aux influences occidentales, ils tombaient. Et en particulier, il y a des réflexions qui sont menées sur l'URSS et sa chute. Parce que ce qui a été appris à Tiananmen quand Gorbatchev dit « faites comme nous », c'était que ce n'était pas la façon dont il fallait s'y prendre. Et depuis, les réflexions se sont intensifiées en disant « attention, prendre exemple sur un parti communiste qui est en train de faire des erreurs, ah, il me reste 5 minutes, c'est une mauvaise chose hein. ». Et donc, je pourrais vous citer, par exemple, des citations du président actuel Xi Jinping en disant « Il ne s'agit pas de dire que Lénine, c'était bon ou mauvais, que Staline, c'était bon ou mauvais. Il s'agit de voir ce qu'ils ont fait dans des circonstances historiques données, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. C'est tout. C'est ça, le travail d'un parti communiste. Ce n'est pas un dogme, il faut faire ci et c'est la seule façon. Parce que si c'était ça, en 1927, le parti communiste chinois aurait disparu et il aurait oublié de s'adresser aux paysans et à défendre les droits des paysans sur la terre. Bon. Et donc Mao n'aurait pas construit sa première république populaire. Bon, tout ça, c'est dire, effectivement, il y a un objectif. Après, on travaille, on réfléchit et on s'adapte à la situation. C'est ce qui résume très... Alors, c'est dans les écrits de Mao et c'est aussi dans les écrits du président actuel, Xi Jinping, c'est-à-dire il y a une alliance entre le marxisme-léninisme, qui est la théorie, et la pratique chinoise. Le marxisme-léninisme, c'est le marxisme, c'est-à-dire l'analyse de la société de classe, l'analyse de l'exploitation capitaliste. Le léninisme, c'est le rôle du parti dans la construction de la société socialiste. Ça, c'est la base théorique. Et puis après, on fait avec les circonstances historiques, dans le contexte mondial dans lequel on trouve à un moment donné, avec les classes sociales telles qu'elles sont, avec les fractions de la bourgeoisie, petites, grandes, moyennes, qui sont dans telle ou telle situation par rapport à telle ou telle situation, par exemple, d'occupation ou de guerre d'invasion. Mais c'est tout, c'est ça la pratique chinoise. Mais tout parti politique, c'est là une notion qui vaudrait, à qui en mon sens vaut pour tous les partis politiques communistes du monde, c'est-à-dire qu'il y a une base théorique qui est la bonne, analyse de classe, analyse de l'exploitation, un rôle du parti, et puis il y a ensuite des circonstances concrètes, hein, ce que Lénine appelait l'analyse concrète de la situation concrète, rien d'autre que ça. C'est ce à quoi ça semble les Chinois. Alors, quand certains ironisent en disant le marxisme à la mode chinoise, ben oui, parce que de toute façon, le marxisme, c'est un outil de compréhension, ce n'est pas un outil de gouvernement. Marx n'a pas écrit sur l'État, sur le fonctionnement des partis, il n'a pas du tout écrit là-dessus. Il a écrit bien avant, et il avait d'autres objectifs, c'était l'objectif de compréhension, d'exposer les mécanismes. Il n'était pas du tout chef d'État, et pas dirigeant de parti politique. Il a été brièvement dirigeant de la Première Internationale, mais ce n'était pas ça son problème. Le problème, c'était la compréhension, et ça, c'est un héritage remarquable. Alors aujourd'hui, on en arrive dans les minutes qui nous restent à dire ben, où en est-ce au bout d'un siècle. C'est pour ça que je vous disais en commençant l'émission, un siècle après la constitution de ce tout petit parti communiste chinois, la situation de la Chine s'est profondément transformée. Il parle de 500 millions. Il n'y avait pas 500 millions. 500 millions, c'est 49. Il y avait 350 millions d'habitants en 1921. Il y en a 1,450 millions aujourd'hui. Bon. Ils sont urbanisés pour la grande majorité d'entre eux. Ils sont éduqués à des très hauts niveaux pour la très grande majorité d'entre eux. Ils sont soignés à des très hauts niveaux. Et puis, ils ont des capacités techniques exceptionnelles qui les mettent à la tête de des grandes disciplines technologiques du monde. Il y a aujourd'hui un système, le Google chinois qui s'appelle Baidu, il fonctionne. Le système de le GPS chinois, c'est-à-dire la couverture satellite mondiale permanente et totale, existe, il s'appelle Beidou, lui, il existe, il est fini, il y a assez de satellites depuis 2020. Donc il n'y a pas besoin de passer par le GPS américain, il y a un GPS chinois qui fonctionne avec tous les satellites qu'il faut. La Chine est aujourd'hui à la tête de la recherche sur les ordinateurs quantiques, c'est-à-dire des ordinateurs beaucoup, beaucoup plus puissants que les ordinateurs que nous connaissons aujourd'hui. La Chine est en train de prendre la première place, peut-être à égalité avec la Russie et les États-Unis, en matière d'astronautique. Souvenez-vous du vaisseau spatial et du module qui est sur Mars. Souvenez-vous aussi du lancement, c'est très récent, de la station spatiale et de la mise en orbite de la station spatiale et de l'envoi des premiers cosmonautes qui vont l'habiter. Donc ça c'est tout à fait en avance. Souvenez-vous, alors pensez aussi, j'y reviendrai sans doute dans une émission un peu plus particulièrement consacrée à ce sujet, qu'aujourd'hui la Chine utilise l'énergie nucléaire, qu'elle est aujourd'hui très nettement à la tête de la production d'électricité par les éoliennes et par les panneaux solaires, dont elle exporte des énormes quantités dans le monde entier, mais que surtout, la Chine est très très avancée en matière de fusion nucléaire. Alors fusion nucléaire, j'en dis quelques mots, c'est ce qui se passe de façon internationale et expérimentale à ITER, dans la région de Manos, que vous avez entendu parler. Il s'agit de fusionner les atomes, et donc c'est une source d'énergie énorme, avec pas de pollution. C'est rien à voir avec les centrales, la fission nucléaire telle qu'on les connaît aujourd'hui. C'est l'énergie d'avenir, c'est-à-dire la capacité de produire énormément d'énergie dans des conditions technologiques très très pointues, puisqu'il s'agit de faire fondre des atomes sans toucher à de la matière, à des températures de plusieurs millions de degrés. Donc je passe sur la technique, mais là on a la source d'énergie future pour l'humanité. Et donc la Chine est en pointe à peu près partout. C'est à mettre en relation avec le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, c'est-à-dire 4,5 millions d'ingénieurs tous les ans. Ils ont du travail. Il y a l'équivalent, alors on parle beaucoup de la Silicon Valley, vous savez, cette région de San Francisco où il y a toutes les recherches en informatique et tout. Il y a la même chose en Chine à plusieurs endroits. Ne vous inquiétez pas là-dessus. C'est-à-dire que la Chine est aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'il faudrait conclure, c'est-à-dire qu'on a considéré la Chine comme, et le gouvernement et le système communiste en Chine, comme un système qui avait sorti des paysans de la pauvreté. Alors c'est vrai. C'était vrai à l'époque, il l'a fait, et il l'a fait encore, puisque sur les objectifs du 18e congrès du Parti communiste chinois, il a été décidé d'éliminer en Chine l'extrême pauvreté. Et quand on prend une décision au congrès du PC chinois, on ne dit pas on élimine l'extrême pauvreté. On a fait le congrès du Parti communiste, le 18e, a fait une liste de 120 000 communes et de 280 régions dans lesquelles il était décidé, qui étaient au-dessus du seuil de pauvreté, de l'éliminer. C'est fait, ça a été décidé en 2013, c'est fini. La Chine a sorti 100 millions de personnes de l'extrême pauvreté en 5 ans. Ça a été décidé, ça a été fait. Et ça a été fait parce qu'il y a des moyens derrière, il y a un parti qui structure, il y a une technologie qui suit, il y a une discipline collective, ça se fait. Bon, ça, aucun autre pays l'a fait. Il faut savoir que par rapport à ces objectifs de sortir des populations de l'extrême pauvreté, ça fait partie des objectifs de l'ONU, l'équipe du millénium. C'est pour 2030 pour l'ONU. Bon, c'est fait en Chine, c'est-à-dire 10 ans avant. Il n'y a plus d'extrême pauvreté sur le territoire de la République populaire de Chine aujourd'hui. C'est ça, ce pays. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de dire que nous sommes face à un régime politique qui a sorti 500 millions de personnes de la misère. Je rappelle qu'avant d'avoir des enfants, les paysans chinois vendaient les enfants en surnombre quand ils en avaient trop. Ça, c'est fini. Hein. Il y avait des famines très régulièrement sur le territoire chinois. C'est fini, c'est plus ça. Bon, maintenant, on a affaire à un pays technologiquement avancé qui nourrit et qui fait faire de belles études à son 1,450 milliard de personnes et qui donc donne à réfléchir sur l'avenir de l'humanité, car tous les discours de Xi Jinping, si on les lit bien, c'est un souci de profiter de que ce régime chinois ne soit pas hégémonique, c'est-à-dire ne s'impose pas en disant « je suis le patron du monde », mais ce que je sais faire, j'en fais profiter les autres, j'échange, ils ont besoin de quelque chose, on essaye de discuter, je vois ce que je peux leur envoyer, je vois ce que je peux leur acheter, je vois ce que je peux leur vendre, et je participe avec eux à des luttes. Si je fais des éoliennes et des panneaux solaires, c'est pour éviter la pollution. J'ai pris ma part là-dedans. Je vais continuer. Donc, je veux apporter tout mon savoir. Ce que j'ai fait pour 20% de la population mondiale, je veux que tout le monde puisse me suivre. Alors, il n'y a pas de discours plus anti-capitaliste et colonialiste que celui-là. C'est-à-dire, suivez mon exemple, je vous aiderai. J'ai beaucoup d'avance dans toute une série de domaines. J'ai surtout une expérience historique très très brève, mais extraordinaire, de ce siècle de direction de ce grand pays. Et je veux que le monde entier en profite. Et je ne veux pas, d'abord, je n'ai pas envoyé des troupes nulle part. Les seules troupes chinoises qu'on trouve à l'étranger, vous savez que c'est le plus grand corps de casque bleu de l'ONU, et c'est les Chinois. C'est le pays qui envoie le plus. Ben, c'est ça, l'intervention militaire chinoise. Par contre, la Chine dit... Par contre, ne venez pas essayer de m'attaquer. Je me défendrai et je me défendrai de belle façon, mais je n'y tiens pas. Voilà le message donc de ce siècle chinois. Et on va finir peut-être par la dernière musique que c'était. C'était Longue vie au président Mao, qui après tout a fait toute sa part de travail à un moment qui était le moment du décollage, le moment de la garantie de l'indépendance énergétique, de l'indépendance alimentaire. Et c'est à partir de ça que tout a été construit. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Et on reviendra certainement sur le sujet de la Chine, puisque la Chine éclaire d'une certaine façon, et à sa façon, l'avenir du reste de l'humanité. Merci Sidi.
Yeah.